Mes chers collègues, mesdames, messieurs, ce n'est pas sans une certaine émotion que je me retrouve ici. C'est dans cet amphithéâtre, je m'en suis souvenu d'un seul coup, que j'ai fait mon premier cours en 1966. Il y a des ombres célèbres, peut-être oubliées un peu aujourd'hui, qui règnent dans cette pièce, alors je peux faire un peu de sentiment pour évoquer la figure quasi tutélaire du doyen Taillot, qui faisait ici un enseignement qui était, selon la tradition de l'époque, mais à un très grand niveau, un spectacle extraordinaire. Je me rappelle encore, derrière ce rideau-là, qui était en bois naturel, d'un chien qui aboyait au début de son cours, pendant que l'amphithéâtre criait « Taillot, Taillot !» Et c'était un orateur absolument extraordinaire. Nous avons tous cherché à l'imiter, jusqu'à y compris à aller à l'Académie de médecine en ce qui me concerne, car c'était un académicien dans l'âme, ce qui n'est pas mon cas. Alors les sentiments n'ont pas bonne réputation. L'opinion courante est qu'ils traduisent chez l'individu une certaine faiblesse. Être sentimental n'est pas une qualité recherchée chez un chef d'entreprise, chez un général, un président d'université, voire un directeur des enseignements supérieurs, bien qu'il vienne de nous démontrer le contraire. Quant à moi, je prétends vous montrer ou défendre l'opinion contraire. C'est la force des sentiments qui fait de ceci le véritable moteur de l'action. Comme le dit Vauvenargue, le sentiment de nos forces les augmente. J'insisterai par ailleurs sur le rôle existentiel, ontologique, pour séduire mes collègues philosophes, même si c'est un gros mot, le caractère dont disais, je ne m'en lasse pas, ontologique, du sentir et du ressentir, du sentiment et du ressentiment. Sensio ergo sum, pourrait-on dire en paraphrasant Descartes. On oppose généralement la raison et le sentiment. Lorsque Rousseau fait dire à Saint-Preux « c'est la raison qui fait l'homme, c'est le sentiment qui le conduit », il adopte une position profondément dualiste. Il reconnaît le pouvoir des sentiments, mais tient à la souveraine indépendance de la raison. Un dualisme qui est donc toujours présent et qui reste encore très vivace. Mais d'abord une remarque. Le mot « sentiment » possède des sens multiples. Pour éviter une trop grande confusion, j'emploierai de préférence le mot « affect » du latin « affectus » qui traduit un état, une disposition de l'âme. J'espère qu'il n'y a pas trop de collègues neurobiologistes dans l'assistance, car « âme » est un gros mot dans la bouche d'un neurobiologiste qui ne doit se soucier que de matérialité des faits, du réel. Et cependant, lorsque je considère ma vie, présente et passée, et d'aussi loin que remonte ma mémoire, il me semble que j'ai jamais pu ou n'ai jamais su me séparer de ce meuble encombrant qui m'a suivi dans tous mes déménagements matériels et sentimentaux, mon âme. Bachelard, dans son livre « L'eau et les rêves », affirme que ce n'est pas la connaissance du réel qui nous fait aimer passionnément le réel. Autrement dit, l'affect, c'est-à-dire l'état, sous-entendu mon état d'âme, préside non seulement à la réalisation de nos actes, mais aussi à notre préhension du réel. Alors, lorsque je m'approche, voyez-vous, là, j'ai mis mon premier principe, l'action est subordonnée à l'état affectif. Autrement dit, c'est l'état affectif qui prime sur l'action. Lorsque je m'approche et serre dans mes bras la femme que j'aime, ce n'est pas cet acte qui déclenche mes sentiments, mon état, mais c'est bien les élans de mon cœur qui me poussent vers elle. En l'assistance de quelqu'un à qui je puisse m'adresser. À l'opposé, dans l'aversion et la haine, dans la souffrance et la peur, c'est là encore l'état de mon âme qui préside à ma fuite ou à mon combat. Mais je dois d'abord dissiper une équivoque et un risque de malentendu Lorsque je parle d'âme ou de psyché, qui n'est que la traduction grecque, l'équivalent grec de l'âme, qui est un mot d'origine latine, lorsque je parle d'âme, je tourne le dos à tout dualisme, qu'il s'agisse de celui de l'idéalisme kantien, de celui de Descartes, qui désigne par sentiment certains états mentaux liés aux besoins de l'organisme, faim, soif, douleur, états confus et passifs qui entrent dans la catégorie générale des passions. Pour son disciple Malebranche, le sentiment désigne une impression confuse qu'il oppose à l'idée comme perception distinctive, purement intellectuelle et douée d'une valeur objective. Que de différence, écrit-il, entre la lumière de nos idées et l'obscurité de nos sentiments. Dualisme qui permet à l'abbé Malebranche de battre son chien et au mari de rosser leur femme en toute sérénité intellectuelle et en laissant leur raison en paix. C'est ce même Malebranche, je ne résiste pas à le citer à nouveau, qui dans une lettre recommande aux femmes enceintes de stimuler l'organe qu'il désigne sous l'abréviation de CLE. Je n'ai jamais pu déterminer de ce dont il s'agissait. Dit-il enfin de favoriser le développement harmonieux de l'embryon qu'elle porte. Oserais-je dire que voilà un abbé qui connaît bien les femmes. Reconnaissons un mérite à Malebranche, celui d'avoir dégagé le caractère subjectif du sentiment, d'avoir montré, comme le souligne Jean Maisonneuve, l'importance du sentiment dans la notion de sujet et d'individu. Le sentiment est à la racine de toute conscience. Il est présent dans toutes nos pensées. Nous prenons toujours quelque intérêt passionné, même dans les vérités les plus abstraites. Elles sont nôtres, pour ainsi dire, par notre connaissance. En restaurant le concept d'âme ou de psyché, qui englobe l'état et restaure la primauté du sujet, détrôné par le réductionnisme cérébral, j'essaye de réintroduire ce sujet que nous avons chassé de l'individu, finalement du corps, de la physiologie, de la biologie, qui travaille aujourd'hui sans sujet à l'intérieur de ce corps, et j'y reviendrai. Voilà, il faut donc réactiver de temps à autre, comme dirait l'abbé Malebranche. Je n'aurai donc aucun embarras à parler d'état d'âme lorsque celui-ci se réfère à la psyché, un état de la psyché. Loin d'introduire une dimension spiritualiste, contraire aux bonnes mœurs scientifiques, le concept de psyché restaure le corps dans ses prérogatives. Quel est en effet ce corps dans lequel l'âme tient ses états? Un lieu où s'épanchent les passions. Avoir faim, avoir soif, avoir froid n'évoque que les plus élémentaires, mais il en est de plus développé. Dans son essai sur la philosophie antique, Pierre Hadot parle à leur propos de la voix de la chair. Citant Épicure, il rappelle que pour celui-ci, la chair n'est pas séparée de l'âme et qu'il n'y a pas de plaisir ni de souffrance sans que la psyché en ait le sentiment. Alors, voilà un schéma comme l'aiment les psychophysiologistes, où je vais essayer de vous définir ce que j'entends par état central fluctuant, qui est un vieux concept que je cherche à faire passer comme ça auprès de mes collègues depuis à peu près 20 ans, mais sans trop de succès. L'état central fluctuant offre un cadre conceptuel aux exigences contradictoires de la psyché et de la chair, et permet de loger, sans trop de tension, dans le même château, le château de l'âme, comme dirait Sainte Thérèse. J'aime bien citer Sainte Thérèse, parce que je ne choquerai personne. Donc, dans le château de l'âme, l'âme et la molécule d'ADN. Voilà ce qu'il y a dans mon état central fluctuant. L'état désigne la manière d'être d'un organisme, considéré dans ce qu'il a de permanent, sans que cela implique l'idée d'arrêt ou d'absence de changement. Il exprime à la fois le devenir et la finitude, le caractère dynamique qui caractérise le vivant. Un ver de terre, un rat, un universitaire sont de la naissance à la mort en état de non-équilibre. État central, comme une centrale d'achat, une centrale de consommateur, une centrale syndicale, mais aussi centrale comme une prison. Être prisonnier de son corps, c'est malgré tout mieux que ne pas avoir de corps. Être prisonnier des autres, mieux que d'être seul. Centrale aussi, enfin, comme le cerveau par lequel le sujet déploie sa présence au monde. Fluctuant, enfin, parce que cet état central fluctuant change sans cesse au fil du temps. L'état central fluctuant est représenté par trois dimensions spatio-temporelles, la chair, c'est-à-dire le corps, que j'appellerais l'espace corporel, avec ses systèmes, c'est un espace de communication, avec son système nerveux, son système hormonal et son système immunitaire. Je ne peux pas, en anglais, parce que j'étais la semaine dernière, une conférence internationale, pardonnez-moi, ce n'est pas du tout par affection ou par snobisme bordelais que je parle anglais. Donc la dimension corporelle, la chair autrement dit, la dimension de l'espace extracorporel, c'est-à-dire le monde propre, les Allemands parlent du Umwelt, du monde propre du sujet dans lequel se déploie la subjectivité, et la troisième dimension, c'est le temps, temps de l'espèce, qui est porté par notre génome, mais temps de l'individu, car cet espace spatio-temporel, cet état central fluctuant, représente une unité qui exprime l'individu. Car l'être vivant, et surtout, je le verrai tout à l'heure, nous verrons tout à l'heure, les vertébrés sont avant tout des individus. Cet espace extracorporel est en relation bilatérale, dialectique quasiment, avec l'espace corporel. Pour vous montrer ce que j'entends par intervention constante entre cet espace extracorporel, ce monde propre du sujet, et le corps, je prendrai un exemple qui m'est venu à midi de ce congrès de gastronomie, je prendrai l'exemple d'un pâté de foie gras. Exemple régional, quand je fais cette conférence en Alsace, je prends la choucroute. Quand je le fais à l'université d'Assas, je prends une bonne sœur. Mais je voulais dire un objet de désir, un pâté de foie. Il est midi, j'ai faim. Ma chair, mon corps exprime cette faim. Le taux d'adénosine triphosphorique dans mes cellules de l'hypothalamus est bas. Mon taux d'insuline est effondré dans mon sang et élevé dans mon corps. No signal. Ma dopamine dans mon cerveau qui intègre tout ça est tendue. Mes neurones sont gorgés de dopamine. Et dans l'espace extracorporel, ce foie gras apparaît. Vous voyez pourquoi c'est un objet interchangeable. Comme un objet de désir. En un mot, j'ai faim et je désire ce foie gras. Et tout ça se passe dans le brain, dans cette fameuse dopamine. Considérez le même objet à 3 heures de l'après-midi. Quand vous sortez d'un repas de président ou de... Je suis passé quelque temps à l'éducation nationale, je peux vous dire que rue de Grenelle, on mange bien, n'est-ce pas ? Mais donc, lorsque vous sortez d'une réunion des instances du ministère des universités, de l'éducation nationale, eh bien, cet objet de désir n'est plus le même. Il a changé, il devient un objet d'aversion. Enfin, quand vous n'avez... Je l'ai vécu cet après-midi où on a assez mal mangé au déjeuner, mais quand la représentante du Portugal est venue nous décrire une feijoada, je dois dire que ça a créé chez moi un petit sentiment de dégoût. Eh bien, cet objet qui n'est plus un objet de désir, qui a donc changé de sens et qui est devenu un objet d'aversion, va modifier mon espace corporel et il va y avoir sécrétion de cholécystokinine dans mon estomac, il y en aura aussi dans mon cerveau, ma dopamine s'effondre, toutes sortes de peptides oxyrogènes, anorexigènes sont sécrétés et l'insuline règne en maître dans mon sang. Bref, ma chair a été bouleversée par sa relation avec le monde extérieur. Voilà donc ce que nous pourrons appeler l'état central fluctuant. À l'interface du corps et de son monde, il y a les émotions. Et tous les comportements humains sont donc organisés autour de deux états affectifs, deux sentiments primordiaux, le plaisir et l'aversion. C'est eux qui sont gérés par le cerveau, nous y reviendrons longuement. Les émotions, au sens très large du mot, peuvent être définies, j'y reviendrai, comme des sentiments fondamentaux qui assistent le pouvoir de l'action, j'y reviens, en maximisant le plaisir et en minimisant l'aversion. L'humeur traduit la présence du monde dans le corps du sujet. Son humeur est continue, fluctuante au gré de son sentir. Alors, il convient de distinguer cette humeur qui est continue des émotions plurielles. Je parle souvent de l'émoi que j'oppose aux émois. L'émoi, c'est la houle de notre humeur, c'est les fluctuations continues de nos sentiments qui vont de l'ennui au plaisir, qui ne se manifestent que très peu. Quelquefois, l'ennui, vous voyez très bien les fluctuations d'un public quand il s'ennuie, c'est tout ça, et c'est les réactions d'un sujet, quelquefois réactions collectives à un objet ou à une situation. Les émotions, c'est au contraire un éclat, un mouvement, comme dit le mot, un mouvement de la chair en direction du monde. Les émotions qui s'expriment essentiellement à l'interface entre le corps et le monde, la peau, le visage, la tête chez l'animal, les gestes, les attitudes. À la différence de l'humeur qui n'appartient qu'à chacun, les actions expressives présentées par l'homme et les mammifères inférieurs sont innées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été apprises par chaque individu. C'est Darwin qui a dit ça. Darwin qui est le premier à montrer le caractère inné, hérité des émotions comme un signe distinctif, notamment des mammifères. Donc, dépeindre l'humeur, ça appartient davantage au talent du romancier ou du psychiatre qu'à la rigueur objective du scientifique ou à l'examen clinique du médecin. Comment, en effet, rendre compte du flux continu des sentiments sans l'interrompre ou en modifier le cours ? Les émotions qui en émergent sont, en revanche, facilement identifiables et peuvent faire l'objet d'une description parmi celles-ci. Ekman, qui est le grand spécialiste des émotions, qui a codifié la lecture faciale des émotions a décrit 6 catégories principales, alors que chez les psychologues allemands principalement, et au début du XXe siècle, on décrivait des milliers d'émotions. William James les comparait, disait on pourrait comparer le nombre aux cailloux d'une ferme du New Hampshire. Ekman donc retient 6 émotions, la joie, la surprise, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Seul le dégoût est spécifique de l'homme. Les autres émotions, on en retrouvera les racines, les équivalents chez les singes, mais aussi chez les chiens. Qui n'a vu un chien en colère ne sait pas ce qu'est la colère, ou un singe en colère. Donc c'est tout à fait irrité, complètement irrité. Ceux d'entre vous qui ont des poils dans le dos, par exemple, s'ils se mettent en colère, sentiront très bien que leur poil du dos s'hérisse pendant la colère. Si vous êtes confronté un jour à un chimpanzé en colère, ce qui arrive, c'est pas le cas de ma psychanalyste qui ne se mettait jamais en colère, mais car j'ai eu une psychanalyste qui était un chimpanzé. Je le raconte un peu pour détendre, mais vous retrouvez les signes de la colère. Il y a empathie entre le chimpanzé et nous. Il n'y a donc aucun inconvénient à ce qu'un chimpanzé, de plus une femelle, et un jeune scientifique, c'était en 1966, qui travaille à la Salpêtrière, les lundis et les mardis, pendant que ses camarades se font analyser, et des échanges de type affectif avec de l'ordre de ce qui se passe dans l'analyse. Bon, le contre-transfert est plus difficile, mais le paiement est moindre. Une poche de cacahuètes suffit. La caractéristique temporelle d'une émotion est sa brièveté. Elle est avant tout une réaction à un événement extérieur qui entraîne des bouleversements, comme je l'ai dit, dans l'espace corporel et une réponse expressive organisée par le cerveau. Le corps est ainsi affecté par le monde et affecte en retour la psyché dans un va-et-vient entre le cerveau et les systèmes irrigués, les organes irrigués par le système nerveux périphérique, le système nerveux autonome ou sympathique, et les hormones. Si les émotions sont une échappée, un débordement brutal de la psyché, elles n'en jaillissent pas moins à la façon d'une vague de mouvements affectifs de l'humeur qui sont, je l'ai dit, comme la houle de notre psyché. Au centre du dispositif, les systèmes activateurs englobent ce que l'on désigne tantôt sous les termes psychologiques de désir ou d'aversion, mais le terme de désir a peut-être une connotation un peu trop analytique ou littéraire, et quelquefois les anglo-saxons préfèrent parler de motivation, c'est quelque chose qui, motivation, ça fait quand même responsable des ressources humaines, je préfère le terme de désir qui est autrement agréable. Dire à une femme qu'on a de la motivation pour elle ne me paraît pas très bien. Par contre, il y a le terme physiologique qui est intraduisible en français d'arousal, qui est ce terme d'activation, de mise en éveil du cerveau qui a été créé par Magoun vers les années 50. Ces systèmes de désir, que j'appelle les systèmes désirants, sont univoques et indépendants de l'objet de désir ou d'aversion. Autrement dit, le désir est bien spécifié par son objet. Ils mettent en jeu les voies et les noyaux monoaminergiques centrales dont les corps cellulaires sont logés dans le tronc cérébral. Dopamine, et puis quelques peptides, des endorphines, sérotonine, catécholamine avec la noradrénaline. Toutes ces très belles substances qui font le bonheur des pharmaciens qui vous vendent des psychotropes. L'arousal est inséparable des états affectifs sous-jacents, le plaisir et la souffrance. Les mêmes neurotransmetteurs, les mêmes structures sont impliquées. La libération de dopamine qu'on peut mesurer, on le fait très bien dans le laboratoire de Michel Lemoine à Bordeaux, où on l'a fait dans mon laboratoire autrefois, la libération de dopamine peut être mesurée par une canule push-pull qui vous permet de montrer que cette dopamine s'élève aussi bien dans la souffrance que dans les plaisirs. Alors, pour cela, ça s'explique très bien par une théorie que j'ai beaucoup défendue qui s'appelle la théorie des processus opposants, qui vous est résumée ici. Qu'est-ce que les processus opposants ? Voilà l'expérience princeps qui les résume toutes. Si vous faites, alors je demande au cœur sensible de ne pas trop mal réagir, un chien que vous mettez dans un harnais, c'est une expérience qu'on peut faire, qui n'est pas le fait de médecin militaire, rassurez-vous, vous lui mettez des électrodes sous la plante des pieds et vous lui faites passer du courant électrique. Le chien n'aime pas ça. Il va avoir un état affectif qui va bouger vers le haut en augmentant le rythme cardiaque ou la pression artérielle. Ça augmente, vous voyez, c'est en violet, très fort au début, et puis ça diminue par la suite, il y a une sorte d'habituation. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous arrêtez le courant électrique, vous avez un rebond, un effet secondaire. Autrement dit, un état d'euphorie, un état de bien-être qui va succéder à l'état de mal-être. Alors pour expliquer ceci, on fait appel à la théorie des processus opposants qui dit que quand on a un état effectif A, d'une direction donnée qui se crée dans le cerveau, eh bien il se crée dans ce même cerveau un état qui, ou plutôt des structures qui sont responsables de l'état opposé, se mettent en marche pour tirer en sens inverse, c'est l'action et la réaction. Alors évidemment, le propre de la contraction, c'est d'être avec une plus forte inertie, elle s'installe plus lentement et elle dure plus longtemps. La résultante de l'effet vers le haut et de l'effet vers le bas, c'est ce que va ressentir effectivement le sujet. Si vous augmentez, évidemment, vous augmentez l'effet primaire et vous augmentez l'effet opposant. Si vous répétez l'expérience le lendemain, eh bien, vous allez voir que la réponse primaire diminue parce que le processus opposant augmente et que, par contre, l'effet secondaire augmente. Et au bout d'une semaine, le chien ne réagira plus ou il lui faudra des quantités d'électricité très, très importantes. C'est ce qu'on appelle l'accoutumance. Cette accoutumance témoigne d'une qualité du cerveau dont il faut absolument parler, c'est de sa plasticité. Il s'agit de remaniements cellulaires profonds qui vont être responsables de ces modifications de structure du cerveau qui vont être responsables de cet effet secondaire. Alors évidemment, c'est l'effet primaire, ça peut être la souffrance. C'est le cas de nos marathoniens qui, eux, sont accoutumés. Donc ils ont l'euphorie, mais ils n'ont plus la souffrance. C'est le cas des parachutistes en chute libre, qui saute uniquement pour trouver l'état de bien-être. Hein. Je raconte toujours, je n'y résiste pas à mes exploits guerriers, j'ai sauté une fois en parachute, propulsé par un pied d'adjudant, et je n'ai pas pu apprécier cette euphorie extraordinaire quand on est au sol, car je me suis, grâce au ciel, ça m'a sauvé la vie, cassé la jambe. Mais c'est ça l'effet secondaire, donc c'est ça les processus opposants. Donc, à l'inverse, c'est la drogue, le plaisir, le plaisir alimentaire, tous ces plaisirs, activations que nous recherchons, le sexe, le jeu, etc., etc., qui vont déclencher l'accoutumance, l'addiction. Vous savez, l'addiction, ce vieux mot que les juristes connaissent bien, d'addictus, c'est-à-dire où on devient l'esclave de son créancier quand on ne peut pas le rembourser. Il traduit très très bien cet état dans lequel se trouve l'organisme. Il y a donc une assuétude. Cette théorie est applicable à toutes les stimulations, à toutes les citations, sources d'excitation, de la drogue bien entendu, mais aussi, je vous l'ai dit, tout ce qui fait l'habituel, l'ordinaire d'un homme entreprenant, d'un homme d'action. Car il y en a chez qui, dont les réactions sont émoussées, on va y revenir dans un instant, et qui réagissent moins. Mais disons que, messieurs les présidents, messieurs les directeurs, vous avez sûrement des processus opposants qui sont en place chez vous et vous êtes sûrement, comme nous le sommes tous, un petit peu addictus du pouvoir. Il est vrai que nos supérieurs se chargent de nous sevrer rapidement, malheureusement. Il n'y a pas de lieu où ceux qui sont en exil du ministère, n'est-ce pas, mon cher Josy, puissent être soignés dans de bonnes conditions. Moi-même, je dois dire, la mise à la retraite, par exemple, c'est quelque chose qui se soigne très très mal. Alors, vous voyez que je divague quand je ne suis pas mon papier, c'est épouvantable. Voilà un exemple, chez mon ami Liedo, de ce qu'on appelle le contraste affectif. J'espère que ça va marcher. C'est un petit rat, une petite souris, qu'on a arrachée à sa mère, juste après la naissance. Écoutez-la, c'est ultrasonique. Vous voyez, elle crie. Attendez ça, c'est les processus opposants, le contraste affectif. Et puis on lui envoie signal rouge de l'odeur de mâle, l'odeur du père, en principe, qui est un prédateur terrible, il croque tous les marmots. Et immédiatement, freezing, vous voyez, réaction émotive, il s'immobilise, il fait semblant de n'avoir rien senti, rien vu, rien entendu, qui est un mécanisme de défense qui est donc inauguré dès la naissance. Alors, est-ce que je vais pouvoir avancer ? Non, là je recule. Voilà, hop, ça y est. Voilà un schéma qui va vous montrer une approche globale de l'humeur et des émotions qui a été développée par Chantal Henry, mes élèves aussi, qui est une neuropsychiatre et qui est une spécialiste des troubles bipolaires de l'humeur, que j'ai formalisé sur cette représentation. Vous voyez la flèche de l'arousal qui va dans le sens d'un plus grand arousal, et ici les deux flèches en sens inverse qui sont en quelque sorte en relation inverse, le plaisir et la souffrance. Et vous voyez les oscillations de l'humeur qui se font dans une marge de variation qui est plus ou moins étendue et avec un seuil et un niveau qui se fait plus ou moins vers l'hypoarousal ou vers l'hypoarousal. Ici, vous avez des anhédoniques qui ont un tempérament peu réactif. On pourra parler d'émoussement affectif. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez les excités. Vous avez ceux qui sont avec des grosses oscillations et puis qui vont faire des explosions d'émotions. Et à cela correspondent des types différents de troubles de l'humeur. De ce côté, vous avez les dépressions qui sont des dépressions chez les anhédoniques qui méritent un traitement qui n'est pas celui que l'on va mettre chez ceux qui sont de ce côté, qui sont des hyperesthésiques émotionnels et qu'il faudra traiter autrement. C'est dans ce domaine que se classent ce qu'on appelle les bipolaires, ces gens qui mélangent des signes de manie, d'excitation et de dépression et qu'il est souvent très difficile de soigner. Par contre, si vous utilisez par exemple certains médicaments chez les anhédoniques à mauvais escient, vous pouvez lever l'inhibition, les faire basculer dans un autre état et ils seront tellement excités, tellement contents qu'ils vont se suicider. Donc c'est extrêmement difficile de jouer avec ces oscillations de l'humeur, mais je tenais à vous montrer cette homéostasie affective. Nos sentiments se règlent exactement au gré de nos humeurs, selon ce grand principe bernardien de l'homéostasie. Je vais maintenant passer à des choses peut-être plus générales, plus théoriques, en parlant un peu plus de biologie peut-être. Car si l'homme est la plus sentimentale des bêtes, on ne doit pas oublier d'abord qu'il est un animal, qu'il est avant tout est un animal. Je me rappelle avoir dit en un lieu saint que l'homme était un animal, je me suis fait rabrouer, mais il ne faut pas oublier qu'il est un animal. Mais il est un animal qui n'est pas comme les autres, puisqu'il est un animal qui se prend pour un homme. Et surtout, enfin, que éprouver des sentiments n'est pas son apanage. Il semble en revanche que les sentiments soient le privilège des vertébrés. Et j'en viens maintenant à quelques travaux personnels ou des travaux de mon groupe. Il y a environ 20 ans, deux scientifiques américains, Northcott et Gans, ont proposé que l'apparition d'une nouvelle tête, un nouveau style de tête, disent-ils en anglais, et d'un système nerveux sympathique ou autonome, était la véritable nouveauté qui distinguait des autres animaux les vertébrés, qu'il convient peut-être mieux d'appeler craniates, car c'est ce crâne, plus ou moins chevelu, qui est la caractéristique, l'apanage des êtres supérieurs que nous sommes. Les données récentes de la biologie moléculaire et surtout la découverte de nouveaux fossiles dans les schistes du Shenyang confirme cette hypothèse. Alors, ces deux fossiles ont 540 millions d'années. Ce sont des pro-poissons. Ce sont des vertébrés, ce sont des craniates, car ils ont ce cerveau qui fait notre apanage, ce cerveau centralisateur. Je parlais d'état central tout à l'heure, mais c'est parce qu'il y a un cerveau avec ses 5 vésicules qui est sous une voûte crânienne que je comparerais volontiers à une voûte de cathédrale gothique, où sont regroupés les yeux, les oreilles, le nez, qui permet à ces animaux d'élargir leur umwelt, leur perception du monde, spectaculairement. Par rapport, le monde d'une abeille est extrêmement restreint, pourtant elle a la réputation d'être intelligente. Le monde d'une mouche, imaginez le monde d'une mouche, même quand il est dans votre salle de bain et que vous prenez votre douche, c'est rien le monde d'une mouche. C'est très peu de choses. Alors que le monde d'un poisson, déjà, c'est avec tous ces organes concentrés à l'avant, dans la tête, c'est quand même une bêtes formidables que, enfin, ces cordées primitives sont déjà extraordinaires. Alors, ils ont aussi une large gueule, avec des dents. Alors, voyez le portrait, hein, qui regarde le monde en face, sentimental, parce qu'il a un système nerveux végétatif qui va lui permettre d'éprouver l'état de son corps, hein, et une grande gueule. Vous savez, de quoi, pour faire un homme, il manque pas grand-chose, n'est-ce pas ? Et ça, c'est un vertébré. Et tout ceci provient de quelques gènes mutés. Peut-être un peu plus, quelques duplications. Il y a eu un moment où il y a eu une vaste duplication dans la vie animale. Je vais me réactiver, ne vous inquiétez pas. Une vaste campagne de duplication qui a amené quelques gènes, ces fameux gènes du développement. En l'occurrence, il s'agit d'un gène qui s'appelle Engrail. Et il y a quelques autres gènes accessoires. J'aurais aimé vous parler, ça aurait été peut-être moins verbeux, mais ça vous aurait sûrement ennuyé davantage, des gènes homéotiques, des gènes de développement, qui vont permettre de faire des vertébrés. Alors, ces duplications de gènes vont faire apparaître notamment une petite région du cerveau embryonnaire qui va disparaître par la suite, qui s'appelle la crête neurale, et qui a été bien étudiée par notre secrétaire perpétuelle, Madame Ledouarin. Et ce qui est étonnant, c'est que, à l'origine de ce que j'appelle la révolution sentimentale, il y a donc cette crête neurale qui apparaît chez ces cordées, ces craniates primitifs, et qui donne naissance au cours du développement à la fois à la chaîne ganglionnaire qui élargit le spectre de perception du monde, le système sympathique, mais aussi, et ce n'est pas rien, à une partie des os et de la musculature faciale. Donc, c'est cet organe qui va être responsable à la fois, finalement, de l'apparition et de l'évolution de nos sentiments et de l'évolution de notre face qui nous permet de traduire et d'être le théâtre, en quelque sorte, de nos émotions. Toute l'évolution des vertébrés, je réactive, est une... Voilà, quelques petites bestioles que nous avons étudiées, dont nous avons cloné les systèmes dopaminergiques, les récepteurs, et vous voyez, ce long parcours, mais qui va commencer, en ce qui nous concerne, chez les céphalocordés, chez l'amphioxus, où vous voyez que commencent à apparaître des vésicules cérébrales et peut-être une crête neurale. Puis vous voyez un poisson qui nous est cher, qui est la lamproie, ici, et puis ensuite les poissons et toutes sortes de bestioles qui vont évoluer en montrant un système dopaminergique extraordinairement stable par rapport à l'évolution des structures subcorticales. Cortical. Alors, ce vertébré a donc un cerveau qui est capable de moduler la perception propre du sujet et ses réponses qui sont dès lors assorties à la valeur hédonique ou aversive de la situation. Il a une gestion du temps qui est nouvelle, une plasticité qui permet à l'individu d'anticiper et d'adapter son désir à la situation. Alors, dire que le vertébré est un situationniste jouisseur et agressif, voilà qui nous rappelle mai 68, mais je ne voudrais pas pousser aussi loin l'anthropocentrisme. Je viens de vous le dire, un acquis supplémentaire des vertébrés, c'est une face. Une face qui atteint un apogée chez l'homme, comme la façade d'une cathédrale gothique, je vous l'ai dit, assortie à cette merveilleuse voûte crânienne qui s'élève vers le ciel. Une face qui permet à l'homme de sourire, un sourire qui s'adresse à l'autre. L'autre, voilà le grand mot qui est lâché. C'est avant tout la relation à l'autre qui fait l'humain. L'autre est indispensable à mon existence, dit Sartre dans L'être et le néant. L'homme ne peut se passer de l'homme. Il habite le cœur de l'autre et l'autre habite son cœur. Cette faculté, cette facilité de s'accueillir réciproquement, cette pénétration réciproque, dirait Rousseau, n'appartient qu'au genre humain. Le cœur dont je parle n'est pas ce muscle creux, mais le symbole de nos émotions et le réservoir traditionnel de nos sentiments. C'est par le cœur que nous connaissons les premiers principes et c'est sur ces connaissances du cœur qu'il faut que la raison s'appuie, écrit Pascal. Bien sûr, il ne s'agit plus aujourd'hui de cœur, mais de cerveau chez l'homme. Mais a-t-on vu des amoureux gravés dans l'écorce d'un cerveau percé d'une flèche? C'est dans le cerveau qu'il faut donc rechercher le pourquoi et le comment de notre besoin passionné de l'autre. Ce besoin de l'autre s'exprime dans ce que j'appelle la compassion. Compatir, c'est souffrir de la jouissance d'autrui. Plus largement, c'est éprouver en soi les passions d'autrui, et cette compassion exige la présence affective et effective de l'autre, même si c'est quelquefois une présence imaginaire. Face à cet autre, je me trouve devant mon semblable. Il est ému, je suis ému par son émotion. Je suis, disais-je dans Biologie des passions, parce que je suis ému et parce que tu le sais. L'autre qui pense en moi est à la place de qui je pense. C'est un peu différent de l'empathie. L'empathie qui est possible chez un animal, mais un rat n'a pas forcément bon cœur. Les racines animales existent. C'est sûr qu'un rat n'accepte que peu volontiers de voir un autre rat souffrir, ce que l'homme accepte quelquefois bien volontiers et ce qui fait toute la différence. Un chien n'est pas méchant, un chien n'est jamais amoureux, même s'il aime son maître. Par contre, un maître est méchant. On devrait écrire sur le pas des portes, non pas « chien méchant », mais « maître méchant », bien sûr. Et l'archétype du... Donc, je parlerai de la compassion, et je vous dirai un mot pour finir, de la contre-passion, de ce que j'appelle la contre-passion, qui est différente de l'agressivité, et qui est l'expression soit de la haine, soit du ressentiment, c'est-à-dire une forme grimaçante et en quelque sorte retournée de l'amour. L'archétype du savoir ému et partagé, c'est le sourire. Le sourire, voilà encore un cerveau avec ses systèmes dopaminergiques qui sont là, qui gèrent en quelque sorte nos passions, nos émotions qui sont là. C'est 100 000 neurones qui sont là au cœur du système nerveux et qui vont contrôler tout notre système cognitif qui en implique des milliards de neurones. Donc, ce qui va donc être l'expression majeure de le sentiment, c'est le sourire. Mais avant de parler du sourire, je vous parlerai du visage des émotions, de ces 10 émotions fondamentales décrites par Ekman et qui ont été bien étudiées par Duchenne, que les médecins connaissent pour la myopathie de Duchenne, mais qui était professeur aux Beaux-Arts, et qui a eu l'idée de... Ça, c'est Darwin et son petit-neveu, mais ça, c'est le concierge de l'école des Beaux-Arts. Et Duchenne a eu l'idée d'appliquer des électrodes pour stimuler les muscles faciaux de ces braves gens et de reproduire ainsi, en simulant les différents muscles, un certain nombre d'émotions, rien qu'en faisant contracter les 46 paires de muscles faciaux que nous avons, c'est-à-dire presque 5 ou 6 fois plus qu'un chimpanzé qui n'a que 7 paires de muscles faciaux. Donc, cette extraordinaire expressivité du visage humain est représentée par ces muscles dont on peut codifier la contraction. Alors, vous voyez ici la tristesse qui est provoquée électriquement, les électrodes ont été gommées pour ne pas impressionner. Et ici, voici une sorte de demi-sourire, mais c'est Duchenne qui a décrit le fameux sourire Duchenne, qui est aujourd'hui bien connu, qui est, vous voyez, provoqué par la stimulation électrique, les photos ne sont pas très bonnes, par la stimulation électrique des grands zygomatiques à bouche fermée, et une contraction de l'orbiculaire, partie externe de l'orbiculaire. C'est le sourire Duchenne. C'est le sourire vrai. Car quand vous avez un sourire Duchenne, ça veut dire que celui qui a le sourire Duchenne, et ça je le sais en le regardant, c'est instinctif, c'est le sourire du nourrisson, il sourit vrai. Alors, moi pour les élections, je regarde les affiches. Et je sais qui sera élu. Je ne prendrai pas d'exemple local, mais je prendrai l'exemple de Bill Clinton, qui a un magnifique sourire Duchenne. C'est vrai que c'est un jouisseur, il ne truque pas. Il ne truque pas. Donc, moi j'aurais voté Clinton, qu'est-ce que vous voulez, parce que, bon, le sourire de Bush ou le sourire de Milosevic, par exemple, c'est un sourire appris. Nixon, c'est un sourire de comédien. Et Milosevic, c'est un sourire, faux sourire. C'est un rire de la bouche. L'œil ne sourit pas. Alors après, le nouveau-né sourit en naissant, puis il va s'accrocher à sa mère par le sourire. Mais ce qu'il faut bien savoir de ce sourire, c'est que ce sourire est inséparable de l'état affectif qui l'accompagne. C'est parce que le nouveau-né a une connaissance intuitive, je vais y revenir, de ce qui se passe sur son visage, qu'il sait quand il regarde l'autre, que l'autre est bien. Donc il y a cet échange affectif qui est l'échange fondamental, hein, qui est avec cet autre primordial qui permet l'identification primaire, qui est la mère. Je pourrais parler du rire, auquel vous avez fait la bonté de répondre à plusieurs reprises dans cette salle, qui est un phénomène contagieux, qui est un phénomène paroxystique, qui est un phénomène musculaire, à la différence des pleurs. On pleure, avec ses tripes, alors qu'on rit avec ses muscles, mais qui est un phénomène qui traduit un état interne. Quand avec une électrode, on stimule non plus la face, mais la face interne du cerveau, l'aire motrice supplémentaire, on fait ça accidentellement, on ne le fait pas exprès, on déclenche chez le sujet un rire important, qui est très facilement codifiable par la cascade d'événements musculaires, et qui s'accompagne, vous dit le sujet, d'un état de bien-être incomparable. Puis dès qu'on arrête, ça disparaît. Avec quelquefois même un petit processus opposant qui s'est mis en place, et un peu de gêne, un peu de souffrance qui suit ce rire déclenché électriquement. Bien, le rire est contagieux, c'est l'exemple type de contagion affective. Voir rire entraîne le rire, entendre rire, car le canal de l'audition est sollicité par le rire, fait rire, et c'est ainsi que toute une salle peut rire par contagion. On rit toujours de l'autre aussi, l'autre est mis en scène dans le rire, soit d'un autre imaginaire. Quand on rit de soi-même, c'est qu'on se considère soi-même comme un autre, mais en général, on rit du ridicule des autres, etc. Je ne parlerai pas des larmes, larmes de joie, larmes... Mais, si vous voulez, simplement pour déplorer que notre société ait perdu le don des larmes utilisé par des larmes médiatiques qui ne correspondent plus à des sentiments. Je voudrais très brièvement, car je me rends compte que je ne m'écoute pas parler, donc je suis un peu long, mais je vais aller finir assez vite. Pourtant, je ne commence qu'à peine ma conférence. Pour vous décrire un peu la mécanique de la compassion, pour faire un petit peu, vous expliquer que ce n'est pas un fantasme de théoricien. Ça a été essentiellement compris, ce phénomène a été compris essentiellement grâce à la neurobiologie. Et grâce aussi à la sociologie. Alors, disons qu'à la base, il y a l'imitation de l'autre. L'imitation, ce vertébré si spécial qu'est l'homme, est le plus grand des imitateurs. Il imite tout. Le nouveau-né imite, il imite sa mère qui l'imite. Vous savez, quand vous faites le bébé, ensuite il vous imite en train de faire le bébé. Les Gardner avaient élevé une petite chimpanzée en même temps que leur fille. Eh bien, au bout de 18 mois, qui croyez-vous qui imitait l'autre? C'était la petite fille qui imitait la guenon. Donc, c'est une faculté d'imitation qui est extraordinaire. Mais pour devenir une personne, l'enfant doit suivre un véritable parcours initiatique, passage de l'imitation de l'autre à une imitation de soi et à la conscience de soi, qui est lorsque on peut se reconnaître comme un soi différent du soi de l'autre et intégrer donc la notion de soi qui va se passer dans notre cortex pariétal droit. Mais on peut comparer à cette initiation de l'enfant un véritable parcours, justement, initiatique face au miroir. Vous savez que le miroir, c'est un instrument qui joue un rôle dans beaucoup de sociétés secrètes pour les rites de passage, et on peut dire que l'enfant et son miroir passent de véritables cérémonies d'initiation. Ça a été bien étudié par Zazo, beaucoup moins bien par Lacan, qui a un peu détourné l'attention de Zazo, mais qui a étudié donc l'évolution chez l'animal et chez l'homme de la relation au miroir. Eh bien, le jeune enfant de 6 mois regarde le miroir, si on lui met une tâche, il regarde l'autre, il va jouer avec cet autre. Si la mère est derrière, il va passer derrière le miroir pour rejoindre sa mère. Donc, il n'a pas l'impression, il n'a pas de vision de lui-même. Et puis, c'est ensuite qu'il y aura une imitation et qu'il y aura une évolution. ce qui est, si vous y réfléchissez, vous ne pouvez être, ce visage, c'est la seule partie de votre corps, enfin votre dos aussi, disons, vos fesses et votre visage, mais bon, en se tournant assez bien, on peut voir ses fesses. Mais son visage, vous ne pourrez jamais le voir sans le secours d'un miroir. C'est donc l'impossibilité d'être à la fois vu et point de vue. Nous ne connaissons notre visage que par une photo ou le reflet dans un miroir. Dès lors, comment l'enfant peut-il un jour reconnaître son visage avant d'avoir résolu ce stade du miroir ? Et ce qui est étonnant, ce qu'on appelle l'illusion otoscopique, c'est que nous avons tous l'impression de connaître notre visage depuis toujours. Et pourtant, quelle est notre surprise lorsque, quelquefois, nous nous voyons en photo moins beau, bien sûr, que nous imaginions. C'est, par exemple, deux jumeaux identiques sont les derniers à savoir qu'ils sont semblables. Ne se connaissant pas, ils sont incapables de reconnaître l'autre comme leur semblable. Donc il y a toute une chose qui va, toute initiation qui va se faire. À 12 mois, l'enfant reconnaît l'autre, mais ne se reconnaît pas lui-même. Il n'efface pas la tâche. C'est entre 16 et 18 mois que va se passer une crise, une sorte d'aporie. Il est un peu comme Velázquez devant sa toile pour peindre ses Ménines. Il ne sait pas s'il est dedans ou dehors, il ne sait plus trop. Et le chien arrive au même résultat. Il va partir, il va paniquer. Le singe aussi. Il se trouve en face d'un congénère, il lui montre son derrière, l'autre aussi. C'est une rupture de rite totale. Jamais il faut qu'on se montre le derrière l'un après l'autre. Et il tombe dans des états critiques. Le chien, c'est pareil, il ne sait pas, il ne peut pas résoudre ce problème. Et il est vraiment... Il sait bien que cet autre, c'est peut-être lui, c'est pas lui, mais enfin, on ne peut pas se mettre justement à la place d'un chien. Donc, très vite, à 20 mois à peu près, l'enfant va effacer la tâche, mais longtemps encore, il passera derrière le miroir, jusqu'à quelquefois 4 ans, et quelquefois 5 ans, pour y chercher sa mère. Donc, c'est des choses qui mûrissent très lentement. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les neurobiologistes ont découvert dans notre cerveau qui fonctionne lui-même comme un véritable miroir, des neurones miroirs. Je vous explique très vite ce que c'est que ces neurones miroirs. On les trouve dans des aires du cortex préfrontal, ces aires qui sont chargées d'organiser les mouvements, notamment des mouvements des extrémités des doigts, des mouvements des lèvres, des mouvements de la face. Eh bien, chez le singe, les mouvements de préhension, les mouvements fins. On fait cette expérience chez un singe quand il s'agit d'enregistrer des neurones. On ne fait pas encore d'expérience chez les humains, mais on a l'imagerie cérébrale qui nous permet de retrouver ce type de résultat. Eh bien, quand un singe va faire un mouvement de préhension, vous avez des neurones dits canoniques ou d'autres neurones qui vont s'activer un petit peu avec le mouvement et décharger pendant la réalisation du mouvement. Si maintenant, un autre singe, à qui on a appris à faire le même geste, fait le mouvement devant le sujet, eh bien, celui qui regarde l'autre faire le geste reproduit dans l'activité de ses neurones, qui fonctionnent comme un miroir, l'activité de l'autre, sans que lui-même ne fasse le geste. Et tout notre cerveau, l'organisation de nos mouvements des extrémités, nos mouvements fins, fonctionne comme ça, en miroir. C'est-à-dire que, c'est la théorie dite de la simulation, nous simulons dans notre cerveau, pour le comprendre, les mouvements des mains ou de la face de l'autre. Ce qui est vrai pour les mouvements, l'est vrai aussi pour l'expression des sentiments. Si vous dites à l'autre de faire mimique de la colère, par exemple, eh bien, les centres activés par la colère dans votre cerveau se mettent en activation en même temps que l'autre est en colère. Autrement dit, vous reproduisez non seulement les gestes, mais l'état affectif qui est associé lorsque vous voyez l'autre. Et ça vous donne les fondements peut-être du langage et de la communication grâce à ce jeu de neurones miroirs. Vous le verrez aussi par la résonance, la RMN, la FMRI, la résonance magnétique fonctionnelle, grâce aux régions et au conseil général, à l'université, nous avons pu développer dans ce pays, je félicite les présents. Donc, grâce au Conseil général, nous avons pu avoir quelques... Conseil régional, je me trompe toujours. Nous avons à Bordeaux une très belle imagerie qui va s'accroître encore, qui va doubler en importance. Et Bordeaux Il signera là son rôle de pôle, de capitale de la neurobiologie européenne. Alors, c'est par cet effet miroir que nous allons apprendre les émotions de l'autre, que nous allons construire nos cartes cognitives d'identité. Nous avons des cartes d'identité, nous avons une identité, je vois qu'on commence à regarder sa montre. Et donc, c'est par cette cognition de l'autre que le sujet va se construire. Et la cognition, vous l'avez vu, je crois vous l'a démontré, sans émotion n'a plus sa raison d'être. Il y a ce phénomène particulier dont j'aurais voulu vous parler, mais peut-être en ai-je trop fait la démonstration, c'est la parole, qui est le propre de l'homme, et notamment des universitaires. La parole qui s'exprime à l'autre, et en s'exprimant à l'autre, elle exprime la pensée. Elle exprime, bien sûr, les désirs simples, comme par exemple « passe-moi le sel », qui n'est pas chargé d'une émotion extraordinaire. Mais des désirs plus profonds, comme par exemple « je t'aime ». Alors, le rapport de la parole et de la pensée mériterait de longs développements par des philosophes plus compétents que moi. Wittgenstein qui dit « le lion parle, mais s'il parlait, on ne le comprendrait pas ». Dennett qui dit « le lion n'a rien à raconter ». Donc, le lion n'est pas un romancier, il n'a pas d'histoire. Il n'a pas d'histoire du soi. Et s'il n'a pas d'histoire, s'il n'a pas de temporalité dans son image de soi, il n'a pas de soi. Il n'a rien à dire. Prémac ajoute « si la poule avait une grammaire, elle n'aurait rien d'intéressant à raconter. » Je commente en disant, je connais beaucoup, excusez-moi messieurs, de grammairiens qui n'en ont plus pas grand-chose de plus à raconter qu'une poule. Comme je sais qu'il y a quelques agrégés de grammaire, élèves de l'école normale supérieure ici, je n'insisterai pas. Mais pour vous résumer les problèmes de rapport entre la parole et la pensée, toujours pour détendre un petit peu, j'évoquerai la grande figure de mon grand-père, qui serait bien content de me voir dans cette tenue et ici, qui avait acheté un perroquet. Il avait acheté un perroquet à Casablanca et il l'avait acheté comme un perroquet qui parle. Et quand il est rentré chez lui, c'était un rabat, il est rentré dans son gourbi et il a attendu que le perroquet parle. Pendant 3 semaines, il a attendu en vain que le perroquet parle. Alors, il a rapporté au marchand, qui a eu cette phrase mémorable, « Il ne parle pas, mais il pense. » Et dès lors qu'il n'a pas voulu rembourser mon grand-père, qui a ramené à Sainte-Foy-la-Grande ce perroquet, dont ma grand-mère s'offensait beaucoup, mais il avait l'habitude de dire que ce perroquet le reposait de sa femme, qui, elle, parlait, mais ne pensait pas. Donc, je insisterai sur cette valeur expressive du langage humain. Le langage humain est essentiellement pathétique. À l'origine, c'est parler, c'est exprimer son étonnement devant le monde. Dans Philoctète, Sophocle fait dire au héros, quand Ulysse débarque sur son île où il est exilé, loin de toute présence humaine et où il n'a plus que le cri pour exprimer sa solitude, il entend la voix humaine et il dit « Ô philtaton phonema », c'est-à-dire « Ô parole chérie ». Voilà ce qui, voilà la parole qui fait l'homme, hein. Demeure de l'être, dirait encore Heidegger. Ce sont les sens qui donnent aux mots du sens. Voilà des belles phrases comme nous les aimons. Désir de l'autre, l'amour et le manque. Vous savez que désirer, ça vient de désidérer, c'est-à-dire manquer, le besoin de l'autre. Alors je voudrais, rapidement quand même, parce que c'est des travaux auxquels j'ai un peu participé, vous parler de l'attachement, de ce qui fait le désir qui va rapprocher les êtres humains. C'est l'attachement. Et avec ces 3 exemples, je vous parlerai d'une hormone qui m'est chère, qui est l'ocytocine. L'attachement, cette chose merveilleuse de 2 amants, de Péléas et Mélisande, du campagnol américain, de la brebis à son petit, de la rate à ses petits rats, c'est une hormone. C'est une hormone qui est libérée dans le cerveau, qui est l'ocytocine. Vous avez 2 types de campagnols américains qui ont fait rêver les neurobiologistes. Vous avez le campagnol des plaines et le campagnol de montagne. Le campagnol des plaines est la campagnole est une femme, une épouse plutôt fidèle et une excellente mère. Le campagnol de montagne est volage. Il passe de campagnolette en campagnolette. La mère ne s'attache pas à ses petits. Ils grandissent un petit peu abandonnés. Alors vous allez me dire, c'est la montagne qui fait ça. Vous avez mis montagne magique, vous avez mis les campagnols de plaine à la montagne, ils continuent à être fidèles. C'est tout simplement que le campagnol de montagne a perdu par mutation et adaptation finalement à l'environnement ses récepteurs à l'ocytocine. Donc il a de l'ocytocine, mais ne peut pas l'utiliser pour déclencher le comportement. Alors, le comportement chez la brebis est très caractéristique parce que la brebis, quand elle met bas, il y a une stimulation d'origine vaginale qui va faire libérer de l'ocytocine dans son cerveau, notamment dans son bulbe olfactif. Et elle reconnaît olfactivement, j'aurais parlé longuement de la reconnaissance olfactive, l'agneau qui est le sien. L'agneau qui est le sien, qu'elle lèche et où elle reconnaît ses propres odeurs. Et l'ocytocine permet cette identification. Si vous lui donnez un agneau étranger, elle le rejette. Si maintenant, vous lui faites une stimulation vaginale, elle va libérer de l'ocytocine. À ce moment-là, vous pouvez lui confier un agneau qui lui est étranger. Vous voyez, miracle de la chimie biologique. Hein. Je n'y peux rien. Mais l'homme, la rate, c'est pareil. La rate, quand les petits naissent, ils sont couverts de liquide utérin, la rate les lèche, elle se lèche les mamelles et les petits vont s'accrocher, littéralement s'accrocher à ces mamelles par reconnaissance olfactive. Mais l'ocytocine, c'est aussi l'hormone de l'attachement chez les primates. L'ocytocine est libérée au cours de l'orgasme, par exemple, masculin ou féminin. Cerveau baigne dans l'ocytocine. Et c'est donc, je recommande souvent, dans un couple en difficulté, de pratiquer le coït à titre simplement pharmacologique. Car l'ocytocine crée l'attachement. Je prends l'exemple. Vous en prie. Il y a quand même l'ocytocine chez la femme peut être libérée par les structures supérieures. Il suffit de, vous voyez, l'amour platonique ou Sainte Thérèse, par exemple, qui baigne dans l'ocytocine quand vous la voyez dans le baldaquin dans le belvédère, là, si vous le voyez, elle est carrément. Et c'est pas Saint Jean de la Croix, c'est le Christ. Donc, c'est purement une représentation qui est capable de faire libérer l'ocytocine. Donc, on peut, par des massages, on peut, par toutes sortes de choses, court-circuiter l'étape vaginale pour faire libérer l'ocytocine. Je tiens à le dire. Et si je reviens à Malebranche, on a peut-être une signification de ce mot sur lequel quelques collègues et moi nous interrogeons toujours. Latiniste, bien sûr. Donc, car c'est écrit en latin, tout ça. Donc, le ouistiti. Alors, je termine avec le ouistiti et après, je vais élever un tout petit peu le débat. Le ouistiti est fidèle. C'est des couples, des petits couples, de petits ouistiti. Eh bien, dès que la ouistiti a un deuil, et c'est ça, l'attachement, c'est une réaction adaptative à la difficulté qu'on a d'élever ses enfants. C'est quand les enfants, et nous, les petits hommes, tout le temps qu'il faut pour faire, je ne dis pas pour faire un professeur, mais pour faire un petit adulte, il faut au moins 18 ans. Hein. Et pendant ce temps, la mère a besoin de ressources et tout ça, mais l'ocytocine va lui permettre, quand elle est sécrétée correctement, d'attirer le mâle sauveur. Ça, c'est les conditions du primate qui a besoin de ça. Et la femelle ouistiti, quand elle perd un petit, eh bien, loin de s'enfermer dans son désespoir, je dirais qu'elle copule, elle copule, elle copule. Et dès qu'une rivale se présente, elle copule, elle copule, elle copule. C'est donc, je dirais, un encouragement que je donne pour la copulation, mais je voudrais que vous n'y voyez aucune connotation morale ou théologique. Je dirais un mot pour terminer de ce triangle compassionnel, mais qui est déjà, je dirais, esquissé par l'histoire d'ocytocine. C'est vrai que Le triangle compassionnel sur lequel va se construire l'individu, son identité, c'est la mère, le bébé et le père, avec cet apprentissage de la mère par le bébé et cet échange qui va se construire comme sur le sourire, comme sur des étés sur lesquels va se construire le visage de la mère, que ce soit la mère réelle, génétique ou la mère d'adoption, va être essentiel dans la construction de ce bébé. Quant au père, le père, il est responsable, c'est l'autre secondaire, c'est le deuxième autre, c'est-à-dire l'autre de l'autre. C'est celui qui va être responsable de l'identification secondaire, selon Freud. Édipe ne peut pas reconnaître ce père qu'il a lié et jeté dans les eaux turbulentes du Cithéron. C'est la raison pour laquelle il va tuer ce père qu'il ne reconnaît pas. Sa mère, il n'y a pas de problème, il y a l'ocytocine qui va lui permettre d'être son amant, même s'il ne la reconnaît pas bien. Il la reconnaît au moins comme maîtresse. Donc, vous avez cette compassion qui échoue sur le corps assassiné de celui, Laïos, qui ne pouvait reconnaître. Le père, c'est cet autre de la mère indispensable. C'est là aussi que va se fonder cette dualité cognitive qui est essentielle, qu'a bien souligné Françoise Héritier, entre le masculin et le féminin. C'est tout petit que ça se fait. Alors je vais donc laisser tomber, tant pis, vous ne le regretterez pas, la contre-passion, nuire, mauvais sentiment, c'est l'autre en moi-même que je tue ou que je violente. Je veux quand même vous parler un peu de ce cortex préfrontal qui est en quelque sorte, qui donne la valeur des choses. C'est bon, et aussi à nos actes, la valeur affective, c'est bien, la valeur morale. C'est ce cortex qui est à la fois le juge et le commissaire-priseur, qui est quelquefois trop le juge, au point qu'aujourd'hui, on commence à se battre dans les prétoires américains avec des images des imageries cérébrales, avec 15% ou 17% ou 20% d'atrophie de votre cortex sous-orbitaire, vous avez l'équivalent d'une gueule d'assassin. Alors, ça peut vous servir pour vous défendre ou ça peut vous servir pour vous accabler. Donc, il faut bien se garder de mettre la morale en équation et d'en faire un objet de biologie. Il y a aussi cette amygdale, non pas celle de la gorge, comme le croyait ou le croit toujours une partie de mon public, mais l'amygdale du cerveau qui sert en quelque sorte de greffier, enregistreur. Donc vous avez le tribunal, le commissaire-priseur et vous avez le greffier, qui est l'amygdalope. Métaphore qui est un peu légère, je vous en conviendrai, mais je ne peux pas aller plus loin pour vous parler de la sérotonine, de ce miroir qu'on brise. C'est ça la contre-passion, c'est le miroir brisé. Je ne reconnais plus l'autre comme mon frère, je le reconnais qu'entre ce moi-même que j'exècre et je deviens comme ça un serial killer. Pas moi, mais enfin, je peux sentir ce qui s'est passé au stade du miroir quand cet enfant a été battu, violenté, que son cerveau a été mentalisé, et quelle représentation du soi et de l'autre, quelle représentation de l'objet de désir fondamental il aura dans son cœur. Il y a aussi le bourreau, dont il y aurait beaucoup à dire, ce bourreau impassible qui montre surtout les capacités d'obéissance de l'homme, plus que sa contre-passion. Il y a ce soldat, qui est un tueur intermittent qui va en quelque sorte organiser cette prédisposition à la haine en la cultivant en quelque sorte pour viser, en envoyant sa lance contre le corps, le cœur de son ennemi. Et en même temps, en étant capable de relever ses lances, et c'est sur cette image que je voudrais terminer mon exposé en vous parlant de la réconciliation. Ce merveilleux tableau de Velázquez qui montre après un an de siège d'une cruauté invraisemblable où on s'est tripé dans des boyaux de mines, où on s'est gorgé dans les polders inondés. C'était quelque chose d'atroce que le siège de Breda. Et voyez ici le général vainqueur Spinola qui donne ce geste, cette accolade, ce geste de compassion extraordinaire au prince d'Orange, au Guillaume de Nassau, qui vient d'être vaincu avec ses lances qui ne sont plus pointées vers l'autre, mais qui sont tournés vers le ciel. Voilà, messieurs, le plus beau message de paix au moment où jamais les hommes ne se sont autant massacrés. Et je vous promets que cette conclusion ne m'avait pas été dictée par quelque opportunité politique, que je n'ai consulté personne avant de la rédiger. L'université est bien le lieu pour être ensemble. C'est le lieu des sentiments partagés dans un commun respect de l'autre. Et il me plaît, disais-je, par quelque inspiration divine, de voir nos quatre universités et toutes nos disciplines se donnant l'accolade. Je forme mes vœux pour une grande université de Bordeaux, respectant les unités si diverses qui la composent, dans un amour rassemblé, dans un amour partagé de la science et des arts. Merci de votre attention.